sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM et bonne année. Alors du coup, comme le confinement est terminé, je peux enfin reprendre les émissions. Et donc pour cette toute première émission de l'année, on va faire une émission spéciale édition Cana avec tout plein de chroniques. Donc cette semaine, je vais vous parler du volume 8 de Dead Demons Destruction. On aura ensuite la chronique du volume 95 de Détective Conan, la présentation de David Sline. On fera un petit point, un gros point même, sur les sorties manga de la semaine. On aura la chronique du volume 11 de Banal à tout prix, la chronique du volume 2 de Fleur de l'Ombre. Et on finira l'émission avec la chronique du volume 10 de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Alors, pour commencer, on va pouvoir s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission. Donc c'est Saisei Rebuild, la version Rebuild, de Megumi Obata, qui a servi de deuxième ending pour l'animé Danganronpa The Animation. Et on revient juste après pour parler du volume 8 de Dead Demons Destruction.
Yeah.
c'était Megumi Ogata avec la chanson Say Say Rebuild, la version Rebuild qui a servi de deuxième ending pour l'animé Danganronpa The Animation. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de Dead Dead Demons, DDDD Destruction. Alors, je rappelle que c'est un seinen de genre drame, vie scolaire, science-fiction qui a été écrit par Asano Inio, traduit par Thibaut Desbief et prépublié dans le Big Comic Spirit. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 10 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana dans leur collection Big Kana avec pour le moment 9 tomes de sortie. Ce volume 8 est quant à lui paru le 31 janvier 2020 au prix de 7,45€. Le résumé du tome, Makoto vient d'apprendre la troublante vérité de la bouche d'Oba. Oran est une voyageuse temporelle qui vient d'un monde parallèle. Grâce à un appareil d'Oba, ils partent en voyage dans les souvenirs d'Oran. 8 ans plus tôt, Kadode et Oran sont en 4e année d'école primaire, bien différente de celle que l'on connaît. Alors qu'elle participe à un stage d'été, elle rencontre par hasard un éclaireur envahisseur. Futaba, englouée dans les manigances du groupe SHIP, qui devient toujours plus extrême, reçoit même des appels tyranniques de Takemoto et se voit confier des choses dont elle se passerait bien. À la télévision, une alerte fait part d'une chaleur plus forte que jamais émanant du vaisseau mère, ce qui n'augure rien de bon. Et pendant ce temps-là, Makoto vient d'apprendre de la bouche d'Oba une chose complètement impensable. Oran serait donc une voyageuse temporelle, issue d'une autre dimension, et son séjour dans la petite ville portuaire ainsi que sa trouvaille d'un petit vaisseau ont peut-être réveillé dans sa mémoire des souvenirs qu'elle avait oubliés et qui datent de 8 années auparavant. L'heure est sans doute venue pour Oba de dévoiler à Makoto certaines vérités concernant le passé d'Oran, mais aussi de Kadode, et c'est grâce à l'un de ces appareils que les deux garçons se retrouvent plongés dans les images de l'enfance des deux filles, quand elles n'avaient que 10 ans, une année ayant apparemment complètement changé leur vie. En dehors des toutes premières pages, l'ensemble de ce 8e volume entame un long flashback, qui n'est toujours pas terminé, et qui propose de découvrir en profondeur l'année des 10 ans de nos deux héroïnes, année a priori charnière dans leur jeune vie. Au vu de ce qui vient tout juste d'être révélé sur Oran, ce long retour en arrière promet d'être riche et passionnant, et il commence fort en présentant nos deux shippies préférés avec des personnalités complètement différentes de celles qu'on leur connaît. Car tandis qu'Oran apparaît comme une fille de bonne famille plutôt sage et douce, c'est bien Kadode qui, ici, apparaît comme la plus badass des deux. Mal acceptée dans son école primaire, brimée par ses camarades de classe, elle n'en fait pourtant aucun cas, reste forte et provocatrice, voire un brin hautaine, avec ses torsenaires, et elle ne se dégonfle jamais quand bien même cela la contraint à rester seule. Quelque part, à plus d'une reprise, on a presque l'impression que les caractères des deux miss ont été inversés, encore plus au vu de certains moments où Kadode lâche des remarques cyniques et matures sur le monde, qui sont habituellement plus du goût de notre cher Oran. En prime, on entrevoit avec beaucoup d'intérêt la situation familiale de chacune des deux demoiselles, on découvre le père de Kadode voué à mourir lors de la tragédie du 31 août, et on retrouve un Hiroshiko physiquement bien différent. Et forcément, dans tout ceci, une question se pose très vite. Comment diable les deux jeunes filles ont-elles pu changer à ce point? Cela sera sûrement l'une des pistes de ce long flashback qui, ici, nous présente avant tout la naissance de leur amitié. Une amitié qui s'est construite autour d'un secret commun, secret ayant évidemment un lien étroit avec l'affaire des envahisseurs, puisque bien avant l'arrivée du vaisseau mère, les fillettes ont déjà pu entrer en contact avec un éclaireur envahisseur qu'elles ont sauvé. Le volume s'axe alors beaucoup sur ce trio, sur la façon dont le lien entre Kadode et Oran naît et se renforce grâce à la présence de cet être, sur les observations que l'éclaireur a lui-même à faire concernant cette planète qu'il trouve infernale, sur la rébellion et la soif de justice que ces gadgets fantastiques vont faire pousser en Kadode, et même si forcément le portrait de la société contemporaine est moins prégnant, il reste tout de même bien présent à travers moult détails, comme les brimades enfantines, la notion de justice et de bien résidant en Kadode, et les limites qui pourraient naturellement apparaître concernant ceci. Redécouvrir Kadode et Oran quand elles avaient 10 ans, et des caractères bien différents, observer la naissance de leur amitié et les événements les ayant peut-être changés, suivre l'impact que l'éclaireur a eu sur elles, sont des choses qui s'avèrent alors passionnantes, Asano jaugeant très bien les choses. Difficile qu'il plus est de ne pas attendre la suite avec autant d'impatience que d'inquiétude, au vu des toutes dernières pages assez terribles, retournant la quête de bien de Kadode contre elles. Voilà, donc Dead Dead Demons, DDDD Destruction à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Mitsu Kazuhiro de Métronome. Et on revient donc juste après pour la chronique du volume 95 de Détective Conan.
Let's go. のことは言えないのに気持ち悪くて先のことも言えないのに
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Oh,
c'était Kimi Dakevo qui a servi de premier opening pour l'animé Bokura Gaïta et qui est interprété par Mi. On passe maintenant à la chronique du volume 95 de Détective Conan. Je rappelle que c'est un shonen de genre aventure qui a été écrit par Aoyama Gosho et pré-publié dans le Shukan Shonen Sunday. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 98 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 97 tomes de sortie. Donc ce volume 95 est sorti le 5 avril 2019 au prix de 6,85€. Le résumé de ce tome, le voyage de Shinichi, Ran et les autres à Kyoto touche à sa fin. Le trio de détectives composé de ce premier, Deiji et de Sera, arrive à résoudre la série de meurtres touchant des anciens étudiants en cinéma. Alors que notre héros se rapproche de Ran, les effets de son médicament prennent fin et il doit fuir pour ne pas redevenir Conan devant elle. Plus tard, les détectives Boys doivent retrouver une de leurs camarades, Maria, qui n'est pas venue à l'école. Conan ne peut guère les aider car il a un problème plus important à résoudre. Partout sur Internet, on parle de la présence de Shinichi Kudo à Kyoto. Kogoro, lui, doit se rendre dans un restaurant où un de ses clients est menacé de mort si elle y retourne. Malheureusement, c'est une serveuse qui est empoisonnée. Enfin, une personne se met à tuer des policières. Alors, il y a clairement du bon et du moins bon dans ce tome 95 de cette très longue série. Les deux premiers chapitres concluent l'affaire commencée dans le tome précédent. Sa résolution est assez bonne et on apprécie de voir le trio Shinichi, Eiji et Sera. Mais plus que la fin d'une enquête, Aoyama nous offre pour notre plus grand bonheur une avancée significative dans la relation entre Ran et Shinichi. Ajoutez à cela les certitudes de Sera sur Shinichi qui se renforcent et vous obtenez presque la perfection. Il est du coup dommage que pour les chapitres 3 à 5, l'auteur nous offre une affaire avec un intérêt proche de zéro. Les Detective Boys doivent retrouver une de leurs camarades qui a disparu dans la maison de sa grand-mère. Alors pour cela, bien sûr, il faut résoudre des énigmes et pourquoi ne pas tout simplement fouiller dans toutes les pièces. Après tout, ce n'est qu'une maison et pas le château de Versailles. De plus, la camarade recherchée, n'ayant fait une réelle apparition que dans le tome 53 de la série, donc ça date déjà un peu, ce n'est pas vraiment un personnage auquel on s'est attaché. La deuxième affaire sur les chapitres 6 à 9 est déjà meilleure. Une histoire en 4 chapitres que l'auteur développe donc un peu plus. Le problème, c'est que malheureusement, elle n'est pas du tout originale. On a déjà eu plusieurs fois des affaires d'empoisonnement en plein milieu d'un repas dans un restaurant. On a déjà eu des affaires où des personnes appelaient Kogoro car elles étaient menacées. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces deux affaires, ce sont les avancées dans la trame principale que l'auteur y glisse. La première nous permet d'en savoir plus sur le chef de l'organisation des hommes en noir, alors que la seconde permet une vraie confrontation entre Bourbon et Akai. D'ailleurs, l'organisation des hommes en noir se met enfin à enquêter sur Shinichi Kudo. Et oui, notre héros est enfin en danger, au bout de 95 tomes. Et oui, sa présence à Kyoto n'a pas pu être effacée aussi facilement. Et enfin, une dernière affaire commence, et elle commence très bien. On devine déjà qu'elle ne sera pas une banale affaire en 3 chapitres, et peut-être fera-t-elle, elle aussi, évoluer les choses. Voilà, donc Détective Conan à retrouver aux éditions Kana. On va d'ailleurs s'écouter le 46e ending de l'animé. C'est Ima Aitakute de Daigo Stardust, et on reviendra juste après pour la présentation du manga Devil Slime.
Ima Aitakute, Kimi ni Aitakute. 奏るたびこの胸がざわめく。でも聞こえてくるのが君の声じゃない。
C'était Daigo Stardust avec la chanson Ima Aita Kute qui a servi de 46e ending pour l'animé Détective Conan. On passe maintenant à la présentation du manga Devil's Line. C'est un seinen de genre action, drame, horreur, romain, surnaturel qui a été écrit par Anada Ryo et prépublié dans le Gekkan Morning 2. La version japonaise est parue en 2013 aux éditions Kodansha avec un total de 14 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 16 octobre 2015 aux éditions Kana dans leur collection Big Kana avec également 14 tomes. Vous pourrez retrouver Devil's Line dans le commerce pour un prix de 7,45€. L'âge conseillé pour le lire est de 16 ans et plus. Il est pour public averti à cause de la nudité modérée et il existe une adaptation en animé de 13 épisodes de 23 minutes qui ont été diffusés du 7 avril au 23 juin 2018. Le résumé de cette série, Tsukasa Taira est une étudiante ordinaire, mais un jour, elle découvre que l'un de ses amis proches est en réalité un vampire meurtrier. Il est arrêté sous ses yeux par Yuki Anzai, un policier moitié humain, moitié vampire. Yuki et Tsukasa sont donc sont ensuite immédiatement attirés l'un par l'autre, mais Yuki ne parvient pas à laisser libre cours à ses sentiments à cause de sa nature de monstre. Un groupe terroriste fait alors son apparition, son but, révéler au grand jour l'existence des vampires, afin que la population humaine déchaîne sa haine contre eux et éradique cette espèce de la surface de la planète. Voilà, donc Devil's Line a retrouvé aux éditions Kana. On va faire une petite pause avec un interlude musical. On va s'écouter la musique Morning Sun de Miaou et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. c'était la musique Morning Sun de Miaou. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Alors, on aura des sorties mercredi 6 janvier avec aux éditions Pika le volume 2 de A Journey Beyond Even, le volume 5 de Chobits, la réédition 2020, le volume 12 de Eden's Zero, le volume 4 de Fairy Tail et City Hero qui sera le dernier tome de la série, le volume 8 de Grand Blue Fantasy qui sera également le dernier tome de la série, le volume 12 de La Princesse et la Bête, le volume 11 de Romeo versus Juliette et le volume 2 de Sailor Moon, l'édition Eternal. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 1 et 2 de Aozora Yell, Un amour en fanfare, la réédition 2021. Ensuite, chez Doki Doki, on aura le volume 13 de Battle Game in 5 Seconds, le volume 1 de La Gameuse et son chat, le volume 5 de Nyankees, le volume 15 de Servamp et le volume 3 de The Alexis Empire Chronicle. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 4 de Fairy Tail Blue Mistral, la nouvelle édition. Aux éditions Glénat, on aura le volume 20 de Inomaru Sumo, le volume 4 de Mao, le volume 97 de One Piece, le volume 6 de One Piece Party, le volume 6 de Parasite, la réédition 2020, le volume 17 de Ranma 1/2, la perfecte édition, le volume 2 de Shikabana, Fleur de Cadavre, et le volume 10 de Tokyo Revengers. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 19 de Jojo's Bizarre Adventure, saison 8, Jojo Lion, et le volume 3 du Jeu de la Mort. Aux éditions Soleil, ça sera le volume 26 de Prison School et le volume 2 de Teach Me More. Et aux éditions Kazé, on aura le volume 29 de Rin, le volume 10 de Viewfinder en partenariat avec Asuka et le volume 18 de Yo-Kai Watch. Pour jeudi 7 janvier, on aura aux éditions Kiun la sortie du volume 14 de Beastars, le volume 27 de My Hero Academia, donc vous aurez le volume 27, l'édition normale et l'édition collector. Et vous aurez aussi la sortie du volume 4 de The Killer Inside. Aux éditions Mana Books, on aura la sortie du volume 6 de Final Fantasy Lost Stranger, le volume 2 de Ni no Kuni qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Siren Rebirth. Aux éditions Le Lézard Noir, on aura le volume 7 du Tigre des Neiges et le volume 3 de Tokyo Tarareba Girls. Et aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 7 de My Fair Honeyball. Au vendredi 8 janvier, aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 9 de Hat Ellie, le volume 5 de Apprenti Criminel, le volume 12 de Banal à tout prix, le volume 17 de Fire Force, le volume 7 de Gamaran, le tournoi ultime, le volume 4 de Just Not Married, le volume 5 de La Voix du Tablier, le volume 17 du Pavillon des Hommes, le volume 14 de Tenjin, le volume 8 de Time Shadows et le volume 5 de Un Petit Ami Trop Parfait. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour dimanche 10 janvier avec que des sorties Boys Love chez Boys Love IDP. Donc on aura le volume 5 de Ten Dance, le volume 2 de Akamatsu et Seven, les colloques d'enfer, le volume 4 de Black or White, le volume 1 de Comment défier le destin, le volume 3 de Coyote, le volume 2 de Itokijime My Hero, le volume 1 de Je préfère en nature, le volume 3 des Caprices du Jaguar, le volume 1 de Love Nest et le volume 1 de Zombie Hide Sex. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. Alors, c'est Midi Chronica avec la chanson Nazca en featuring avec 818, aka DJ Rio, aka Smooth Current. Voilà, on va s'écouter ça et on reviendra juste après pour la chronique du volume 11 de Banal à tout prix. Madame Atel, ma best, on se que c'est ma tatelle. Agenda, plan, plan, dame, ni mon ami d'Abatel. No des, on reste, on des, game. Harry, a guerre, koe, mon horo, ni gaku, nagare. Narelle, kizu, mon wasre.
I don't wanna move it, lose it, but I gotta choose it. 夜空に落とす ったらチャンスなども来ない。フルムーンナイツ課題捕まえず笑い泣きパノラマモンドリブーツやってんだって待ってんだり察してよくても一瞬はシェンあれって何こここれって泣きの空白途中を埋める鶴君に会いたいな。もう
数学も使い古しかすれた声と待ち焦がれるほど焼かれる身を焦がす永遠をとりあえず求めあるボード僕の言葉でメールを送る夜が明け消える三日月と添い遂げる
僕の吐息で思い出が消える街の一息で起こいでた季節何を聞く声が Forever 君だけは透明なまま笑っていて
笑ってるよグッバイグナイト冒険気で回想アジテーション現実に激励枯れ果てた墓地場隣から待っていた気持ちがと届けた
思い人は一人にふとよぎるあの日
呼び止める声振り向けどただ虚しい
ただ今だけ抱き回泣き笑えばいい
もしかしたらまた会えるいつか I don't wanna move it Susie バッタガラジューゼス夜空に落とすと笑顔周期宇宙に空気失う理由にいつか時たりの僕は地球見回していた君の目になるこの世の終わりも忘れて夢中に思い絵に描く二つの手にある次の始まりも隠したよ
Midi Chronica avec la chanson Nazca en featuring avec 818 aka DJ Rio aka Smooth Current. On passe maintenant à la chronique du volume 11 de Banal à tout prix. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre drame, romance, vie scolaire qui a été écrit par Nanaji Nagamu et prépublié dans le Margaret. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 14 volumes qui termine la série et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 11 tomes. Ce volume 11 est sorti le 4 septembre 2020 au prix de 6,85€ et le tome 12, je l'ai dit tout à l'heure, est prévu pour le 8 janvier prochain. Le résumé de ce tome est « Si on se mariait ». Ces mots-là, Koiko ne les attendait pas et ce qui la bouleverse le plus, c'est qu'elle connaît Tsurugi. Il n'est pas du genre à plaisanter sur un sujet pareil. Alors, quand il lui demande d'y réfléchir sérieusement, la jeune fille s'exécute et va jusqu'à acheter un magazine sur le sujet. Lorsque Tsurugi, bien décidé, en parle à son père, celui-ci lui suggère de partir en week-end en tête-à-tête avec Koiko. Nous avions quitté Koiko qui faisait tout son possible pour se faire pardonner d'avoir douté de son petit ami, et Tsurugi qui s'appliquait à lui faire passer un très bon anniversaire, non sans humour, jusqu'à ce que leur rendez-vous prenne un tournant pour le moins étonnant en se voyant dans l'impossibilité de rentrer chez eux le soir même. Ce tome 11 s'attarde grandement sur un dénouement pour le moins inévitable du manga qui est le thème du mariage, le rêve de petite fille de Koiko, la mangaka restant sur sa ligne conductrice qui est de mettre en scène des situations en parallèle afin d'illustrer les troubles de ces deux personnages, le tout avec une bonne dose d'humour et de légèreté. On ressent toujours aussi parfaitement les émotions qui passent sur les visages des personnages et Tsurugi impressionne par tant de maturité et de sérieux malgré son jeune âge. Il aime Koiko et il se consacre à 300% à cette relation, relation qui risque de prendre un tout nouveau tournant avec ce séjour passé en tête-à-tête dans un chalet. Banal à tout prix se lit toujours aussi facilement avec son ambiance légère et le développement de ses personnages poussé par un récit réaliste qui reste en osmose avec le genre shoujo. On a donc hâte de retrouver nos deux amoureux dans le tome suivant. Voilà, donc Banal à tout prix à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Speedway de Mio Nakayama et on reviendra juste après pour la chronique 2 de Fleur de l'ombre.
I'm not afraid to die.
Donc c'était Mio Nakayama avec la chanson Speedway. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Fleurs de l'Ombre. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame-romance qui a été écrit par Kamimura Kazuo et prépublié dans le manga Action. La version japonaise est parue aux éditions Futabasha avec un total de 4 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kana dans leur collection Sensei avec 2 tomes qui terminent la série. Ce volume 2 est sorti le 20 septembre 2019 au prix de 18€. Et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la nudité modérée. Alors, le résumé de ce tome, je m'appelle Sumire, la façon dont une femme mène sa vie ne regarde qu'elle. Si le simple caprice féminin a l'impétuosité de l'averse estivale, s'il ne dure pas plus que les lucioles surgies après la pluie, il symbolise la liberté de la femme. Jeune femme marquée depuis l'enfance par le sort de sa mère jusqu'à ce que cette dernière meure, Sumire, la vingtaine désormais, a décidé de ne jamais se laisser dicter sa conduite par les hommes et de se laisser porter par le cours des choses plutôt que de subir les entraves de la vie. Mais est-ce toujours facile dans ce Japon-là, dans l'époque en pleine évolution où elle vit ? Quoi qu'il en soit, son parcours se poursuit inlassablement au gré des rencontres, des séparations, des moments difficiles et advienne que pourra. Donc au bout d'un fascinant premier pavé, nous laissions notre héroïne auprès de Shosan, artiste émérite et bien plus âgée qu'elle, joueur de shamisen avec qui elle semble bien. Elle envisage même sa fin avec lui tout en sachant que leur différence d'âge ne le lui permettra pas, d'autant qu'un nouveau coup dur de la vie pourrait bientôt s'abattre. À travers ce deuxième et dernier pavé de 490 pages, on continue de suivre les péripéties de la jeune femme qui vogue selon là où ses pas la conduisent, au rythme des affres de la vie. Et la suivre ainsi reste jusqu'au bout fascinant, tant Sumire a une façon bien à elle de traverser les choses, que celle-ci soit triste, un peu plus optimiste ou trouble. Kazuo Kamimura, en s'appuyant sur ses habituelles qualités visuelles et narratives, avec une forme de lyrisme sonnant comme des airs d'Enka, continue de jouer sur nombre de petites épreuves se dressant sur la route de Sumire et se présentant comme autant de petits portraits d'époque, place de certaines formes artistiques comme le shamisen, confrontation, jeunesse, vieillesse, jalousie, deuil, mais surtout l'amour et ses incertitudes, et plus encore différents aspects du sexisme ambiant, où se sortir des attentes de la société est rarement évident pour une femme comme elle. Mais Sumire, bien que parfois ébranlée et presque accessible aux yeux de ceux et celles qu'elle fascine, continue encore et toujours de courir après sa liberté et redevient insaisissable. Telle une belle fleur éclose qui nous attire, mais dont la place dans une ombre incertaine nous empêche d'aller réellement l'accueillir. Arrivé au bout de la lecture, il sera possible de trouver la conclusion abrupte, puisqu'elle n'existe pas vraiment, et que le dernier chapitre est même un aparté nous plongeant dans les dérives, montée du fascisme, etc., du Japon des années 1930 pendant la Grande Dépression, ce qui est par ailleurs très intéressant. Mais ce n'est en soi aucunement gênant dans la mesure où on garde alors de Sumire une certaine image de recherche de liberté, une recherche sans fin de liberté, faisant fi des habituels buts que l'on veut fixer à la vie. Superbe chronique d'un mangaka qui était décidément doué pour saisir son époque et la croquer, Fleur de l'Ombre est avant tout le portrait de l'une des plus captivantes héroïnes de Kamimura. Voilà, donc Fleur de l'Ombre à retrouver en 2 tomes aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Nagareboshi de Mika Nakashima. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec la chronique du volume 10 de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Donc c'était Nagareboshi de Mika Nakashima. On passe maintenant à la chronique du volume 10 de Capitaine Albator Dimension Voyage. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, drame, science-fiction qui a été écrit par Matsumoto Leiji, dessiné par Shimabushi Kuiti, traduit par Frédéric Mallet et pré-publié dans le Champion Red. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 10 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kana avec également 10 tomes. Donc ce volume 10 est sorti le 10 juillet 2020 au prix de 7,45€. Et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Le résumé de ce tome, l'Arcadia est encerclée par l'Armada des Sylvidres. Cette fois-ci, les pirates de l'espace vont devoir montrer comment ils se battent. Sous les ordres d'Albator, tout l'équipage va s'unir pour la bataille finale. L'heure est venue de l'ultime affrontement entre Albator et la reine Sylvidra. Alors, ce dernier volume déçoit un peu car on a passé une dizaine de tomes à revisiter tous les coins et recoins du Leijiverse pour finalement réaliser un sprint final qui n'exploite aucunement tous les éléments précédemment mis en avant. Ce tome 10 est censé corriger et apporter une fin à la série mère qui s'arrêtait juste avant la confrontation entre l'Arcadia du capitaine Albator et l'armada de l'impératrice Sylvidra. C'est plein de bonne volonté, certes, mais impossible d'en ressortir pleinement satisfait. L'armada de l'impératrice Sylvidra, composée de milliers et de milliers de vaisseaux, est tellement importante qu'il lui faut plusieurs heures pour se mettre en place. On est donc à 1 contre 100 000 au bas mot, mais les Sylvidres craignent tellement Albator qu'elles mettent en place un stratagème diabolique qui consiste à exploiter son bon cœur en se servant de vaisseaux civils bourrés à craquer de réfugiés au premier rang. On a des dramas opposant la commandante militaire Cléo, prête à tout, à commencer par baigner ses mains dans le sang des siens comme de celui de ses adversaires, et la commandante civile Techius, qui, elle, n'est pas prête à céder aux sirènes de la fin, justifie les moyens. Autant de cas de conscience qui contredisent largement tout ce qui a été montré auparavant, avec des aliens impitoyables préférant le sacrifice de la vie des autres, comme de la leur pour accomplir leur mission, et œuvrant à la suprématie de femelles végétales, exploitant et asservissant les mâles animaux. Pour s'en sortir, on sort le Deus Ex Machina de la base secrète contenant un hangar secret qui abrite un super vaisseau secret. Donc, grâce à Warius de la flotte Gaïa, Yataran de la team Albator arrive à la rescousse avec un nouvel Arcadia. Les Sylvidres qui passent au bas mot de 100 000 contre 1 à 100 000 contre 2 sont en panique totale. Et les anciens comme les nouveaux compagnons d'Albator lui ouvrent la voie vers un nouvel affrontement avec Sylvidra. Nouvelle fourberie de Cléo, nouveau coup de théâtre ici incarné par Namino, nouvelle punchline d'Albator, nouvelle tirade énigmatique de Sylvidra, et c'est la fin. Donc c'est à la fois cliché et inattendu. Borka Zander gagne les élections présidentielles terriennes et on parle de la nouvelle page de l'histoire de la galaxie, mais impossible de voir en quoi il y a un quelconque changement. Kirita de la flotte Gaïa fait des extras pour offrir un territoire aux Sylvidres dans la zone des Neogamilas. Donc c'était bien la peine de faire une telle fixette sur la Terre qui aurait été leur seconde planète mère, sans parler qu'on n'explique aucunement le lien entre les Neogamilas et les Gamilas, qui étaient les antagonismes des humains dans Space Battleship Yamato. Mais ce qui remonte le moral, c'est qu'on fait du bon drama autour du passage de témoin entre le maître et l'élève. Albator rejoint un nouveau vaisseau avec son ancien équipage, Tadashi Daiba, héritant ainsi de son ancien vaisseau avec la Sylvidre Namino, la meurtrière de son père à laquelle, par amour, il a fini par pardonner, et les frères Torkagien, qui pardonnent à leur père, qu'ils accusaient d'être un collabo alors qu'il était un héros. Que voilà de bons éléments de base pour une nouvelle série au sein du Leijiverse. Voilà, donc Capitaine Albator, Dimension Voyage à retrouver en 10 tomes aux éditions Kana. Pour finir l'émission, on va s'écouter bien évidemment le générique français de l'animé Albator 78. C'est Albator, le corsaire de l'espace, interprété par Eric Chardin. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.